Le Dieu fidèle nous a appelés à la liberté. C'est l'enseignement principal du chapitre 5 de l'Épître aux Galates. Et je vous propose de lire à partir du verset 13. Et ce qui viendra comme un leitmotiv ce matin pour nous, c'est que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Galates 5, à partir du verset 13. « Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole « Aime ton prochain comme toi-même ». Mais si vous vous blessez les uns les autres, si vous vous entre-déchirez, prenez garde, vous vous détruirez mutuellement. Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même, l'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles, et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autre chose de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même, avec ses passions et ses désirs. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Ne soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. Ici, jusqu'ici, la lecture. Est-ce que nous sommes prêts à rencontrer Dieu? On a parlé de ceux qui nous ont précédés ou qui vont le faire. Mais est-ce que nous sommes prêts à nous tenir face à lui et à répondre de nos actes? L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous a dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Et c'est vrai pour tout le monde, chrétien ou pas, athée ou croyant, riche ou pauvre, instruit ou non. Mais en tant que chrétien, nous avons un avantage, parce que nous avons un avocat de choix, Jésus-Christ, qui plaide pour nous. Quand je serai devant ce trône, il ne me sera pas demandé de quelle religion j'étais ou combien de malades peut-être que j'ai guéri ou combien de sous j'ai donné à l'église ou à combien s'élève mon compte en banque ou combien j'ai de maisons ou d'appartements ou de biens matériels ou j'avais parce que c'est fini après. Hein. Mais probablement qu'une des questions sera « Qu'as-tu fait de l'amour de Dieu ? Comment est-ce que tu as aimé ?» Le prophète Amos nous a écrit « Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. » Je ne sais pas si vous connaissez Stephen Lungu, qui a écrit un livre qui a deux titres. « Cet amour qui m'a guéri », c'était le premier titre. Et puis, je crois que le livre a été réédité « Décidé à tuer ». C'est un témoignage extrêmement frappant. Parce que ce qui me frappe particulièrement dans la vie de cet homme qui a été abandonné par sa mère à l'âge de 5 ans, lui et ses jeunes frères et sœurs, qui a grandi dans la haine. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'a pas été transformé du jour au lendemain comme ça, le jour où il s'est converti. En fait, il a eu un long parcours. Il en a bavé. Et le jour où il a accepté l'amour de Dieu, il a dû apprendre beaucoup de choses, et notamment à aimer. D'abord, aimer les Blancs, parce que lui était noir. Ça se passe au Zimbabwe, si j'ai bon souvenir. Et puis, aimer tous ceux qui lui ont fait du mal. À commencer par ses parents. Nous aimerions bien que le Saint-Esprit se manifeste puissamment par nous, mais est-ce que nous sommes prêts à apprendre les leçons que la majorité des grands hommes de Dieu ont eu besoin d'apprendre pour devenir ce que Dieu voulait qu'ils deviennent? Et dans le lot, est-ce que nous sommes prêts à aimer notre prochain comme il est, pas comme nous aimerions qu'il soit? Quelqu'un a dit un jour, occupe-toi de ceux que tu aimes, de leur vivant, parce qu'après, ça ne sert plus à rien. Si Dieu ne nous avait pas aimés, il n'y aurait pas de salut possible. Il n'y aurait pas de Jean 3,16. Mais Dieu nous a aimés, et il y a Jean 3,16. Le centre, le cœur de la révélation de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'apôtre Paul aux Corinthiens a dit « Recherchez avant tout l'amour ». Et la Bible est un livre qui parle d'amour. Et l'Évangile se résume à ce fameux verset « Dieu a tant aimé le monde ». C'est la plus merveilleuse histoire qu'on puisse entendre, qu'on puisse raconter. L'évangéliste Moody raconte comment Dieu l'a touché. Moody, c'est un petit peu le Billy Graham du 19e siècle, si on peut dire comme ça. Il raconte comment il a découvert l'amour de Dieu et comment ça a changé sa vie. Il y avait un évangéliste britannique qui était venu prêcher dans son église. Chaque soir, il prêchait. Et chaque soir, son texte, c'était Jean 3,16. Tous les soirs. Le dernier soir, il a conclu en disant « Mes amis, pendant toute la semaine, je me suis efforcé de vous faire comprendre combien Dieu vous aime. Mais je n'arrive pas à le faire avec cette langue balbutiante, avec cette pauvre bouche mal affermie. Si seulement je pouvais emprunter l'échelle de Jacob, monter au ciel, rencontrer l'ange Gabriel qui se tient auprès de Dieu pour lui demander « Mais montre-moi combien d'amour le Père a pour le monde ?» Qu'est-ce qu'il répondrait, l'ange Gabriel ? Il répondrait « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Et le futur évangéliste Moody ne pouvait plus retenir ses larmes en écoutant l'évangéliste parler de l'amour de Dieu qui a envoyé son Fils mourir pour ses péchés. Et voici ce qu'il confesse. Jusqu'à ce moment-là, j'ignorais que Dieu m'avait autant aimé. Mon cœur commença à se dégeler et je ne pus retenir mes larmes. C'était comme si je venais de recevoir les nouvelles d'un pays lointain. Et j'ai bu ce message à grandes gorgées. Moody a été attiré par la plus grande force du monde, l'amour, et a fortiori l'amour de Dieu. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Et Paul ajoute à la fin de cette liste, la loi n'est pas contre ces choses. Dans son livre « Le chrétien à l'aube du XXIe siècle », John Stott consacre un chapitre entier sur le premier de cette liste de fruits de l'esprit. Et de ces deux versets, et il en tire, j'aimerais les partager avec vous ce matin, 5 affirmations concernant l'amour. La première de ces affirmations, c'est que l'amour est la toute première grâce du chrétien. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est vrai que Paul présente une espèce de grappe, hein, D'ailleurs, il parle de l'esprit au singulier, c'est le fruit de l'esprit. Et puis il détaille, il donne ses 9 fruits, si on peut dire, hein, qui occupent avec l'amour la plus grande place de choix. On ne peut pas s'empêcher de penser à l'hymne à l'amour de l'apôtre Paul hein, dans 1 Corinthiens 13, où Paul insiste sur l'importance de l'amour qui surpasse tous les exploits de puissance et de manifestation. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Le premier fruit de sa présence en nous, ce n'est pas la puissance, mais c'est l'amour. Quel est le signe qui authentifie un enfant de Dieu? Est-ce que c'est la vérité, la connaissance, la fidélité aux bonnes doctrines? Et on pourrait rajouter des éléments sur cette liste. Bien sûr que la vérité est importante, elle est même sacrée. Bien sûr qu'une bonne doctrine est vitale pour la santé, pour notre santé spirituelle, pour la santé de l'Église. La Bible d'ailleurs nous exhorte à combattre le bon combat de la foi. Et à demeurer ferme et à nous attacher aux enseignements des apôtres. Rien de tout ça n'est à jeter, on est bien d'accord. N'oublions jamais ces exhortations solennelles. Et pourtant, je reprends Paul en 1 Corinthiens 13, « Si j'ai la science de tous les mystères, toute la connaissance, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Et en plus, la connaissance peut rendre orgueilleux. L'amour, lui, fait grandir la foi. Par conséquent, l'amour est supérieur à la connaissance. D'autres considèrent la foi comme la marque du disciple authentique. Voici ce que nous affirmons. L'homme est déclaré juste par la foi, sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi. C'est ce qu'a écrit Luther. La justification par la foi est l'article principal de toute doctrine chrétienne, celui grâce auquel on reconnaît les vrais chrétiens. Pourtant, 1 Corinthiens 13, même si j'ai la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. D'autres font de l'expérience spirituelle, religieuse, la pierre de touche du chrétien. Une expérience d'un type particulier et frappant qu'ils estiment devoir être systématiquement reproduite dans chaque chrétien. Et ils n'ont pas tout à fait tort. C'est important l'expérience, c'est important d'expérimenter ce que nous croyons. Mais ils n'ont que partiellement raison, parce qu'une relation personnelle directe avec Dieu par Jésus-Christ est essentielle. Et pourtant, si je parlais les langues des hommes et des anges, si j'avais le don de prophétie ici, je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour est donc supérieur à l'expérience. Enfin, d'autres, plus portés sur l'aspect pratique de la foi chrétienne, estiment que le vrai chrétien se reconnaît à son service. Sans les œuvres, dit Jacques, la foi est morte. Et puisque Jésus s'est fait le grand défenseur des pauvres, ses disciples ne peuvent pas agir autrement, reproduire ce que Jésus a fait, a voulu. Et pourtant, même si je distribuais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, Si je livrais même mon corps pour être brûlé dans un geste héroïque, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est donc supérieur aussi au service. En résumé, la connaissance est vitale, la foi est indispensable, l'expérience religieuse est nécessaire et le service essentiel, mais Paul accorde la prééminence à l'amour. Celui-ci est la vertu la plus importante du monde. Dieu est amour. C'est l'apôtre Jean qui nous le dit dans son épître. Dieu est amour. Au plus profond de son être, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Sainte Trinité, sont éternellement unis les uns aux autres, dans un amour qui se donne. Ainsi, celui qui est amour et qui répand son amour sur nous, nous appelle en retour à l'aimer, lui, et à nous aimer les uns les autres. Nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. L'amour est la caractéristique distinctive principal, sublime et prioritaire du peuple de Dieu. C'est comme cela qu'on devrait nous reconnaître. Et rien ne peut le chasser ni le remplacer. L'amour est suprême. La deuxième affirmation sur l'amour, c'est qu'il apporte la joie et la paix. Et là, on revient à notre verset du fruit de l'esprit. Car le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie et la paix. Cet ordre n'est sûrement pas fortuit. Les hommes ont toujours recherché la joie et la paix, n'est-ce pas? On a tous envie de connaître la joie et la paix. On pense à toutes ces chansons sur l'amour et sur la joie et à la paix. Hein. Il est où le bonheur? Il est où? Chantait Christophe Maé. Et puis, plus ancien, une parole d'Yves Duteil qui disait « Le bonheur est une étincelle qui n'est belle que quand elle s'éteint. » Ceux qui recherchent le bonheur ne le trouvent jamais parce que la joie et la paix sont fuyants. Au moment où nous tendons la main, on croit enfin la saisir, le bonheur, il s'évanouit. Pourquoi c'est comme ça? Eh bien parce que la joie et la paix ne sont pas en elles-mêmes des objectifs que l'on peut atteindre. Elles ne sont que, j'ai envie de dire, des sous-produits de l'amour. Si je connais l'amour, alors je connaîtrai aussi la joie et la paix. Dieu nous les accorde, non pas quand nous les recherchons particulièrement, mais quand, mus par l'amour, nous le recherchons, lui et notre prochain. L'amour se sacrifie pour autrui. Sa nature même l'empêche d'être égocentrique. Comment pourrions-nous nous sacrifier tout en recherchant notre avantage? C'est impossible. Le chemin tracé par Jésus est totalement à l'opposé. Il a enseigné des vérités paradoxales. C'est lorsque nous acceptons de perdre notre vie que nous la trouvons. C'est lorsque nous acceptons de mourir à nous-mêmes que nous découvrons vraiment la vie. C'est lorsque nous nous mettons volontairement au service des autres que nous devenons vraiment libres. Et pour Paul, ça revient à dire que lorsque nous aimons, la joie et la paix suivent. Si nous nous oublions en nous mettant par amour au service des autres, la joie et la paix rempliront aussi notre vie, comme des bienfaits, comme des bonus, des bienfaits imprévus qu'on n'avait même pas recherchés. La troisième affirmation, l'amour se traduit en acte. Parce qu'en effet, si l'amour est le premier fruit de l'esprit, entraînant dans son sillage la joie et la paix, comme on vient de le voir, les suivants sont la patience, l'amabilité et la bonté. L'amour n'est pas que du romantisme, encore moins de l'érotisme. Il n'est pas non plus simplement un sentiment ou une émotion. Ça peut paraître abstrait, mais il aboutit à des attitudes positives et à des actions concrètes. La patience, l'amabilité et la bonté. Et l'amour en action est concrète. Elle s'inquiète des autres, quel qu'en soit le prix. La patience est une vertu qui peut être considérée comme négative parce que le mot est souvent traduit par longanimité, qui exprime l'idée de patience davantage envers les gens qu'envers les circonstances. Dans le midi, on dit « qu'est patience ». Elle inclut la notion d'indulgence envers les personnes exigeantes et exaspérantes. Notre patience ne doit jamais oublier toute l'étendue de la patience de Christ à notre égard. L'amabilité et la bonté sont toutes deux des vertus positives. La première exprime l'idée de bienveillance, de générosité, en pensée, et souhaite le bien d'autrui, tandis que la bonté traduit davantage l'idée de bienfaisance, de générosité en acte, et accomplit le bien que l'on souhaite à autrui. Il y a donc une progression dans ces trois vertus chrétiennes. La patience supporte la méchanceté d'autrui, et refuse de se venger, l'amabilité transforme la tolérance en bienveillance et souhaite non le mal, mais le bien d'autrui. Et enfin, la bonté change l'intention en acte et prend l'initiative de servir les gens concrètement. Comme le déclare l'apôtre Paul, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, et par amour nous devons nous mettre au service les uns des autres. Nos plus belles déclarations d'amour n'ont que peu de valeur si elles ne sont pas accompagnées ou suivies d'effets concrets dans des situations réelles. Si la patience, l'amabilité et la bonté ne viennent compléter nos paroles. Quatrième déclaration sur l'amour, l'amour est soumis à la maîtrise de soi. En effet, le fruit de l'esprit, c'est la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. On boucle la boucle ici, hein. Les deux premières qualités semblent être des nuances de la troisième, c'est-à-dire la maîtrise de soi. La fidélité exprime la fiabilité d'une personne, la confiance qu'on peut avoir dans cette personne, qu'elle va tenir ses promesses et qu'elle va honorer ses engagements, par exemple. Le mot douceur n'est pas une douceur complaisante et servile qui manque de caractère et qui rejette tout principe. Être doux, c'est certainement se montrer affable, humble et plein d'égards envers autrui. Mais pour atteindre cet objectif, il faudra souvent dompter nos forces et canaliser nos énergies. La maîtrise de soi exprime l'idée du pouvoir, de pouvoir ou d'autorité que l'on exerce sur soi-même et sur nos instincts. Le contrôle de notre tempérament et de notre langue et l'assujettissement de nos passions. Quel programme, n'est-ce pas? Mais pourquoi l'amour est-il soumis à la maîtrise de soi? Parce que l'amour est un don de soi. Don de soi et maîtrise de soi sont complémentaires. Comment pourrions-nous nous donner nous-mêmes si nous n'avons pas appris à nous contrôler? Avant d'être mis au service d'autrui, notre moi doit d'abord être maîtrisé. C'est significatif que la description des 9 aspects du fruit de l'esprit commence par le don de soi et se termine par le contrôle de soi. Et enfin, la dernière déclaration sur l'amour, selon Galates 5, c'est que l'amour est le fruit de l'esprit. La cinquième vérité que l'on peut tirer de ce texte fondamental sur l'amour, tel que nous l'avons découvert, c'est la source de la joie et de la paix. Traduite en acte et soumise à la maîtrise de soi, c'est qu'il est le fruit de l'esprit, autrement dit, la conséquence naturelle de l'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit en nous. Je ne sais pas vous, mais moi je ne me lève pas le matin en me disant « Aujourd'hui je vais aimer mon prochain, je vais vivre dans la joie, dans la paix, dans la patience, dans l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi » si ce n'est pas le Saint-Esprit qui vient faire son travail en moi. Je ne peux pas fabriquer ces effets-là. Ça serait totalement superficiel si je cherchais à les atteindre par moi-même. Je peux éventuellement les imiter, mais ça restera toujours une copie plutôt médiocre, n'est-ce pas? Le contexte montre quelque chose d'intéressant. C'est que Paul oppose la chair à l'esprit. Il oppose les œuvres de la chair au fruit de l'esprit. Paul décrit notre nature humaine héritée, déchue et faussée, avec ses penchants au mal, ses désirs corrompus, ses exigences égoïstes. La vraie définition du mot chair, ça pourrait être le moi. Et par l'esprit, Paul désigne le Saint-Esprit lui-même, qui vient habiter en nous lorsque nous nous repentons, lorsque nous plaçons notre foi dans le Christ, et dont la présence est garantie, est la garantie de notre foi. Les désirs de la chair et ceux de l'esprit sont des désirs actifs. Ils ont tous les deux des désirs réels, actifs, dynamiques, puissants. La vie chrétienne est une lutte sans rémission contre le monde, la chair et le diable. Je dis souvent, la vie chrétienne, c'est pas le club Med, c'est la guerre. Ensuite, les désirs de la chair et ceux de l'esprit sont des désirs contraires. Il existe entre les deux une opposition farouche. Pourquoi? Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. L'opposition entre les désirs de la chair et ceux de l'esprit apparaissent encore plus clairement dans le contraste entre les œuvres de la chair, versets 19 à 21, et le fruit de l'esprit, 22-23. La liste des fruits de la chair, des désirs de la chair, n'est pas glorieuse, n'est-ce pas? Elles sont même très désagréables. Et Paul en énumère 15. Waouh! L'inconduite, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, l'hostilité, la discorde, la jalousie, la fureur, la rivalité, les divisions, les partis pris, l'envie, l'ivrognerie, l'orgie. Oh là 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 là! C'est moi tout ça? Quel catalogue abject d'attitudes et d'œuvres par lesquelles l'homme démontre son hostilité envers Dieu et envers les autres, envers ses semblables. On dit parfois que la Bible est un miroir. Elle nous révèle qui nous sommes. Mais le fruit de l'esprit, à l'opposé, avec ses 9 facettes qu'on a déjà vues, qu'on a analysées, ce fruit de l'esprit forme un contraste saisissant avec les œuvres de la chair. On a même du mal à imaginer une opposition plus radicale entre ces deux choses. La piété d'un côté et l'impiété de l'autre. La joie et la paix authentique d'un côté et la recherche des plaisirs malsains de l'autre. L'amabilité et la beauté opposées à la méchanceté, à la jalousie. Et enfin, la maîtrise de soi contre la satisfaction égoïste des appétits. Paul insiste enfin sur le fait que les désirs de la chair et ceux de l'esprit sont des désirs susceptibles d'être maîtrisés. L'apôtre écrit que l'esprit est en mesure de prendre de l'ascendant sur la chair et de l'assujettir, que l'amour est capable de vaincre l'égoïsme et que le bien peut triompher du mal. Vous regardez n'importe quelle histoire, n'importe quel conte de fées, n'importe quel film, c'est toujours là qu'on veut en venir. Le bien va triompher du mal. Mais comment est-ce vraiment possible? Eh bien parce que le secret de cette victoire réside dans la bonne attitude qu'il convient d'adopter face à la chair et à l'esprit. À l'égard de la nature pécheresse, que devons-nous faire? Afficher une attitude ferme de rejet. Pourquoi? Parce que ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la nature pécheresse avec ses passions et ses désirs. L'attitude que nous devons adopter en face du Saint-Esprit, c'est celle de la reddition inconditionnelle. Nous devons marcher selon l'Esprit, être conduits par l'Esprit, marcher sous l'impulsion de l'Esprit. En d'autres mots, nous devons permettre, autoriser l'Esprit d'exercer sa souveraineté sur nous pour pouvoir suivre ces justes directives. Le rejet de la chair et la capitulation devant l'esprit, c'est un exercice de tous les jours. Nous devons être également constamment en train d'être remplis de l'esprit, en lui laissant chaque jour un libre accès en nous. Et pour cela, il y a le rejet de la chair qui nous permet de nous soumettre à l'esprit. Cela doit se traduire dans nos attitudes, habitudes de vie. Celui qui sème pour l'esprit, dit Paul, récolte le fruit de l'esprit. Semer pour l'esprit, c'est cultiver les choses de l'esprit. Par exemple, faire bon usage du jour du Seigneur, un jour que je décide de mettre à part pour lui. Me discipliner à lire la parole, à prier journellement, à venir au culte, assister aux réunions où je peux m'édifier, où je peux aussi édifier les autres. Pourquoi pas participer à la réunion de prière, à l'étude biblique. Dieu a énoncé un principe général qui s'applique autant au domaine matériel qu'au domaine spirituel. C'est très simple, on récolte ce que l'on sème. Il n'y a pas d'exception. Vous pouvez vérifier, c'est comme ça que ça marche. On ne se moque pas de Dieu, dit Paul. Ne soyons pas surpris de ne pas récolter le fruit de l'esprit si à longueur de journée, nous semons pour la chair. Est-ce que nous pensons pouvoir tromper Dieu ou plaisanter avec lui? J'ai lu une histoire d'un vieux montagnard qui avait deux chiens et ces deux chiens étaient toujours en train de se battre. Un passant est arrivé et lui a demandé « Lequel est le plus fort des deux ?» Et le montagnard a dit « C'est celui que je nourris le plus. » C'est pareil pour le combat qui se livre en nous, entre la chair et l'esprit. Si nous affamons notre vieille nature et prenons soin de la nouvelle nature, notre nouvelle nature n'aura pas de mal à triompher de l'autre. Une seule personne a porté le fruit de l'esprit à sa pleine maturité. Jésus. On a même l'impression que la description par Paul des 9 aspects du fruit de l'esprit correspond au portrait de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Parce qu'il a aimé comme personne n'a jamais aimé, parce qu'il a offert sa vie pour ses ennemis. On trouve dans sa bouche les mots joie et paix. Il s'est montré d'une patience extraordinaire à l'égard de ses apôtres, souvent obtus, et puis finalement à notre égard. Il a toujours été bon, il a opéré d'innombrables bonnes œuvres. Il était également parfaitement digne de confiance, toujours doux, et même doux et humble de cœur. Et enfin, il a exercé en permanence un contrôle absolu sur lui-même, au point que, injurié, il ne rendait pas l'injure. Maltraité, il ne faisait pas de menace. Si le fruit de l'esprit n'est autre que la ressemblance à Jésus-Christ, ce n'est rien d'autre que le dessein que Dieu a pour nous. Car ceux qu'il a connus d'avance, Romains 8, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Dieu nous a créés à son image, nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous avons donc besoin d'aimer et d'être aimés. Que nous puissions donc nous laisser remplir de l'amour de Dieu. Et que cet amour puisse déborder en nous pour que nous soyons capables d'aimer les autres. Et que notre ambition la plus élevée puisse être de ressembler toujours plus à Jésus-Christ. Amen.